Donc nous commençons cette étude de la Bible en 24 heures. Alors encore une fois, ce n'est pas une journée de des heures de... C'est-à-dire, c'est pas en un seul jour qu'on va commencer et demain soir on ressort et vous connaîtrez tout. Ce serait pas mal de faire ça, faire un marathon. Mais l'idée c'est de faire un survol de toute la Bible pour voir un peu son unité, comment elle s'articule. Et ce soir, je me propose de faire simplement une introduction. Et la Bible, il y a un petit livre qu'on a en vente à la librairie qui s'appelle La Bible en 90 minutes. Il n'y en a plus, mais on pourra en commander. Mais là, on va faire 24 heures, donc 24 fois une heure, ou à peu près des séances à peu près d'une heure. Donc si on commence à 8 heures, on fera un peu de louange, j'espère que quelqu'un pourra m'aider. Et vers 9h30, on devrait avoir terminé. 9h30, 10h après avec le temps, mais on ne veut pas que ce soit quelque chose de trop long pour vous. Mais avant de vous dire la Bible en 24 heures, je veux dire la Bible en une minute. D'accord ? Et si prenez des notes, si jamais je peux vous envoyer ce texte après. Voilà. La Bible en une minute. Top, c'est parti. Il aime. Il a créé. Nous avons péché. Il est venu. Il est mort. Il est vivant. Il a payé. Nous sommes pardonnés. C'est gratuit. C'est pas un piège. Répandez la parole pour qu'ils choisissent la mort ou Jésus. Faites-le pour dire merci, pas pour gagner des bons points. Il va revenir nous chercher. En attendant, parlez-lui et restez proche de lui. Soyez gentils, ne vous battez pas. Riez ensemble. Pleurez ensemble. Essayez de ne pas vous faire mal. Quand vous faites du mal, demandez pardon. Quand on vous a fait du mal, pardonnez. Faites des progrès dans ces deux domaines. Cherchez à faire des choses bien. Cela vous aidera à passer le temps jusqu'à ce qu'il revienne. Pendant ce temps-là, essayez de lui ressembler davantage. Attendez. Et pendant que vous attendez, aimez. Message central de la Bible. On va voir comment l'Ancien Testament et le Nouveau Testament s'articulent. Sur votre petit plan d'étude, on voit qu'il y a 12 leçons consacrées à l'Ancien Testament. 12 leçons sur l'Ancien Testament et 12 leçons sur le Nouveau Testament. La Bible, c'est un livre à part. C'est un livre unique. Les grands hommes du passé l'ont bien remarqué. Blaise Pascal, notre gloire nationale, a écrit « Sans l'Écriture qui n'a que Jésus-Christ comme objet, nous ne connaissons rien ». Et nous ne voyons que l'obscurité et la confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. Napoléon. La Bible n'est pas un livre ordinaire, mais elle est une créature vivante avec le pouvoir de conquérir tous ceux qui s'opposent à elle. Victor Hugo. Il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine, éclairée par toute la sagesse divine. Un livre que la génération du peuple appelle le livre « La Bible ». Ensemencer les villages d'évangiles, une Bible par maison. Alors on peut se dire, oui, ça c'était des croyants, des catholiques, mais il y avait même le plus grand socialiste de tous les temps, Jean Jaurès, a écrit « La Bible fait bondir la tête et le cœur des hommes, tressaillir les collines. C'est le livre des sursauts, des images grandioses et tragiques. » Des grandes revendications sociales, des prophéties annonçant la disparition de la guerre entre les peuples, l'apaisement des nationalités et de la nature elle-même. Puis quelqu'un qu'on pense avait le plus grand QI de l'histoire, Albert Einstein, a écrit « Personne ne peut lire les évangiles sans ressentir la présence réelle de Jésus. Sa personnalité vibre dans chaque mot. Aucun mythe ne peut contenir une telle présence vivante. » Tous ces grands hommes ont reconnu que la Bible était un livre totalement spécial. Elle est le fondement de la civilisation occidentale. On parle de la civilisation des valeurs judéo-chrétiennes. Elles sont fondées sur l'enseignement de la Bible. Il faut lire la Bible. C'est déjà ce que Dieu demandait à son peuple. Par l'intermédiaire de Moïse, dans Deutéronome 31, versets 9 à 12. Moïse écrivit cette loi et la remit au sacrificateur, c'est-à-dire au grand prêtre, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'Alliance de l'Éternel à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre au bout de 7 ans, à l'époque de l'année de la remise, à la fête des Huttes. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël pour qu'ils l'entendent. Donc ils devaient lire la parole, la loi. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'immigrant qui résidera avec toi, afin qu'ils l'entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs fils qui ne la connaîtront pas l'entendront. Et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le territoire dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Ce qui frappe, c'est le but indiqué par Dieu. On ne lit pas la Bible, à l'époque, ils ne lisaient pas la Bible pour se faire du bien, mais pour craindre l'Éternel. C'était le but, c'était d'avoir un respect devant Dieu, de sa puissance, et ne pas faire n'importe quoi, lui obéir à ses paroles. Par ailleurs, il est dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. On est aujourd'hui dans une situation financière, économique mondiale, on ne sait pas où ça va s'arrêter. On ne sait pas si ça va continuer pendant encore plusieurs mois avec des moins 10% de chaque bourse mondiale, des banques qui font faillite. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui cherchent à faire de l'argent sur le compte des autres, qui s'enrichissent de façon totalement obscène et qui se moquent de la justice sociale, qui se moquent de la justice de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas lu la Bible. Ou ils ne la mettent pas en pratique s'ils la... Psaume 34 disait « Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » On a dit le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. C'est dans le psaume 111. La crainte de l'Éternel, c'est aussi le commencement de la connaissance. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel, si je vous donne pas la référence, vous pouvez simplement écouter. La crainte de l'Éternel prolonge les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Proverbe 10, 27. On s'est aperçu, c'est vrai qu'il y a des statistiques que les chrétiens pratiquants vivent plus longtemps que les non-croyants. Mais c'est sûr, ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ont une vie plus saine, ils essayent de faire du bien, ils ont un but dans leur vie, ils ont une direction. Donc la durée de la vie dépend de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Ainsi de suite. Nos contemporains ont tellement besoin de connaître la parole de Dieu. Il est important aussi de la lire personnellement et de se réunir pour la lire, pour l'étudier ensemble. Parce qu'il y a, un encouragement à, persévérer, à demander des questions, à mieux comprendre si on est en groupe, si on est ensemble. Et en fait, de tous les États européens, la France est le dernier pays en ce qui concerne la connaissance et la lecture de la Bible. Ça, découle d'une, enquête qui a été faite en, 2008. 24% des personnes en France estiment que la Bible devrait être étudiée à l'école, alors que dans la plupart des autres pays, c'est au-dessus de 45%. Les gens ont un sens de la valeur de la Bible. Un autre sondage montrait que 64% des Français pensent que la Bible a une place importante dans le patrimoine religieux de, l'humanité. Ils veulent bien dire que c'est important. Deux tiers, oui, ça, on veut bien l'admettre. Dans le domaine culturel aussi, 62% pensent qu'elle a une place importante ou assez importante. Mais 70% de ces mêmes Français qui disent qu'elle est, importante pour les autres, 70% des Français déclarent que la Bible n'a pas d'importance dans leur vie personnelle. 58% des foyers ne possèdent pas de Bible en France. 54% des Français pensent que c'est un livre dépassé, en décalage avec la réalité du monde moderne. Seulement 38% des Français pensent qu'il y a peut-être des enseignements à retirer pour sa vie personnelle. On a dit que seulement 58% des foyers français n'avaient pas de Bible. Sur l'ensemble de toute la France, par individu, 72% des Français n'ont jamais ouvert une Bible. Donc vous qui avez ouvert une Bible ce soir, vous êtes dans l'exception déjà. Ce qui est plus triste, c'est que 44% des Français qui ont une Bible ne la lisent pratiquement jamais. Et seulement 24% de ceux du peu qui lisent la Bible la lisent dans un lieu de culte. Et quand on dit un lieu de culte, c'est pas une église, ça peut être simplement un groupe de maison, ça peut être un groupe d'étudiants qui se réunit, des amis à deux, trois qui se réunissent. Mais c'est trop dommage de ne pas connaître la Bible, de ne pas voir son importance. La Bible, ce n'est pas une question de, prix. Il y a eu une campagne récemment où on disait, la publicité, c'était la Bible pour le prix d'un café. Il y a, on n'en a peut-être plus encore, des, Bibles à 1,50€. C'est parti très vite. Voilà, voilà. On va en ramener, on va en commander des caisses. On va les distribuer. Ce qui est formidable dans la Bible, c'est que elle nous permet de connaître Dieu. C'est une révélation de Dieu. Et sans la Bible, chacun se fait sa petite image de Dieu. Chacun prend un peu à droite, un peu à gauche. Beaucoup en, France disent qu'ils ne veulent pas du Dieu de l'Église catholique, du Dieu de la Bible, mais qu'il y a des bonnes choses dans la Bible, il y a des bonnes choses dans le Coran, il y a des bonnes choses dans la Bhagavad Gita, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. Et chacun se saupoudre, se fait une petite cuisine, pas trop indigeste pour eux. Mais ça, c'est pas la... Ce n'est pas la bonne façon de procéder, parce que le Dieu que nous allons fabriquer, il va être à notre image. On va se faire un Dieu confortable avec nous. Et la Bible parle de ces petits dieux, de ces faux dieux que les hommes adorent, et les appelle des idoles. Les idoles, c'est... À l'époque, c'était souvent des statuettes qui représentaient des divinités, devant lesquels les gens s'inclinaient, faisaient, et aujourd'hui encore, on sait qu'il y a des, petites idoles, il y a des temples où il y a des statues qui sont vénérées parce qu'elles ont, on pense qu'ils ont un pouvoir spécial. Souvent, ces statues inanimées peuvent être possédées ou habitées par des esprits mauvais. Ça, c'est biblique. Mais il y a un passage très important, on va lire dans 135. Psaume 135. Versets 15 à 18. Les idoles des nations, c'est page 618 dans la Bible à la Colombe. 135, verset 15. Quelqu'un veut lire ce verset? C'est trois versets, 15 à 18. Oui, Alex. Voilà, donc il décrit en fait ces stupides idoles qui sont des. Par ailleurs, il y a un endroit où il est dit que on prend un bout de bois, on va faire du feu pour faire la cuisine, et puis de l'autre côté, on va tailler le même morceau de bois, on va le tailler pour en faire une idole qu'on va vénérer. Les idoles, elles n'ont pas Dieu, elles ne voient pas, elles ne parlent pas, on ne peut pas leur demander grand-chose. Et ce qui est le plus étonnant, c'est verset 18, « Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. » Ça décrit comment les hommes qui mettent des choses en exergue dans leur vie, qui vénèrent des choses, deviennent comme ces choses. Les personnes qui s'intéressent à la finance, qui ont tout investi, qui suivent le cours de la bourse, ils deviennent aussi nerveux, aussi volatiles, aussi peureux que l'argent qui est là un jour et qui le lendemain a disparu. Il y a une imitation de ce qu'on adore, de ce qu'on vénère. Il y avait des tas de dieux à l'époque, et aujourd'hui, on a les mêmes dieux. On n'a pas des statuettes, on est plus évolué, on est plus intelligent que ça. Hein? Mais pour certains, ça va être justement le culte de l'argent. Tout va tourner autour de l'argent dans leur vie. D'autres, ça va être les sports. D'autres, ça va être le plaisir. D'autres, ça va être les loisirs. Et on devient esclave de ces choses. Et le prophète Jérémie, dans Jérémie 2,28, disait... À ceux qui pleuraient parce qu'ils n'avaient pas d'aide, ils disaient « Où sont donc tes dieux que tu t'es fait ? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes. » Il parlait du territoire de Juda qui était tombé dans l'idolâtrie. Et personnellement, on m'a parlé... Des chrétiens priaient pour nous, mais m'ont parlé de la Bible. Ils disaient « La Bible dit ceci, la Bible dit cela. » Et ma première réaction, c'était « C'est bien beau, mais il y a d'autres livres qui doivent dire le contraire. » Et donc, ma démarche, ça a été de faire un peu des recherches sur la Bible. Pourquoi est-ce qu'elle serait un livre particulier? Pourquoi est-ce qu'elle serait digne d'attention? Et en fait, j'ai découvert que la Bible, elle ne parle pas d'une religion. D'ailleurs, il y a plusieurs religions qui, entre guillemets, qui revendiquent aussi bien le judaïsme qui se centre sur l'Ancien Testament, la religion catholique qui se base sur la Bible avec quelques livres en plus, on y reviendra, la religion protestante. Mais il n'est pas question d'une religion, il est question, on va le voir, d'une personne. On va voir que la Bible est unique à bien des titres. D'abord, la Bible est unique, si vous prenez des notes, vous pouvez noter, dans son harmonie. La Bible, ce n'est pas un livre, même si c'est relié sous la forme d'un seul livre. En fait, c'est une petite bibliothèque de 66 livres, 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Elle a été écrite sur une période de 1500 ans, c'est-à-dire sur près de 40 générations. 40 générations, ça commence à faire du monde. Je ne sais pas qui vous connaissez dans vos ancêtres, peut-être vos grands-parents, peut-être vous avez entendu parler de vos arrière-grands-parents, mais souvent on a du mal à aller bien plus loin, au-delà de ça. Là, la Bible, elle est arrivée à nous, elle a été écrite plutôt sur une période de 40 générations, 1500 ans. Elle a été écrite par 40 auteurs différents, des hommes qui ont été utilisés par Dieu pour mettre sur le papier sa révélation, inspirée par l'Esprit-Saint. 40 auteurs différents, mais des gens de tous les milieux sociaux. Il y avait aussi bien des pêcheurs, comme Pierre, il y avait des militaires comme Josué, des rois comme David ou Salomon, il y avait un premier ministre comme Daniel, un fonctionnaire qui était payé pour boire, Néhémie. Il était payé en fait, il était l'échanson du roi, il devait goûter le vin et la nourriture, donc il était payé pour boire et manger, avec du danger si c'était empoisonné. Il y avait un berger, on a parlé de David qui était berger quand il a écrit certains des psaumes. Amos, le prophète Amos était aussi un berger. Matthieu, c'était un percepteur d'impôts, pas très populaire. Un médecin, Luc, un rabbin théologien, Paul, des chefs politiques comme Moïse. Donc ça a été écrit par des tas de personnes de milieux différents. Ça a été écrit dans toutes sortes, d'abord sur 3 continents, en Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle, en Afrique, en Égypte, et puis en Europe. On est en train d'étudier les lettres qui ont été écrites en prison à Rome par Paul aux Philippiens. Donc 3 continents, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, dans toutes sortes d'endroits. Moïse a écrit dans le désert. Jérémie a écrit dans un donjon. Daniel a écrit dans un palais. Paul a écrit en prison. Luc a écrit en voyage. Il devait avoir un petit carnet. Et tous les soirs, avant de se coucher, il racontait ce qu'il avait fait dans la journée. Il y avait aussi Jean qui a écrit l'Apocalypse alors qu'il était en exil sur l'île de Patmos. Non seulement ça a été écrit par tous ces... à travers cette grande période de temps, par toutes ces personnes, quarantaine de personnes, qui venaient de tous les milieux, en 3 langues. Ça a été écrit aussi, j'allais dire, en 3 langues. En hébreu, pour l'Ancien Testament. En araméen, c'était l'hébreu qui était parlé en Palestine au temps de Jésus. Il y a des portions de Daniel qui sont écrites en araméen. Et puis en grec, donc pour le Nouveau Testament. Et le grec dont il était question, c'était le grec du peuple, ce n'était pas le langage sophistiqué, c'était le grec commun. Il y a différents styles littéraires, il y a des récits historiques, il y a des recueils de lois, il y a des traités de doctrine, des poésies, des paraboles, des allégories, des biographies, des correspondances, des lettres, des prophéties, une littérature qu'on appelle apocalyptique sur la fin des temps. La Bible traite de centaines de sujets très controversés, mais avec harmonie et continuité. Depuis le début, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit qu'il y a une unité. Et je ne sais pas si vous avez jamais joué à ce que, à mon époque, on appelait le téléphone arabe. Peut-être qu'il y a un nouveau nom. Vous connaissez le téléphone arabe? Je dis quelque chose à Indira, qui le répète à l'oreille d'Anne, qui le répète à l'oreille de Fanny, qui le répète à Frédéric, qui le répète à l'oreille de... Amandine, qui le répète à l'oreille de... Pauline, Amandine et Pauline, qui le répète, etc. Et quand ça arrive à moi, ça n'a plus rien à voir du tout avec le message. Et pourtant, il n'y a pas eu un grand temps qui s'est écoulé. Il n'y a pas eu d'opposition. On n'a pas parlé en différentes langues, même si parmi nous, il y a peut-être différents accents. N'est-ce pas, Nancy? Je plaisante. Mais le message est déjà complètement abîmé, détérioré. La Bible parle de tas de sujets très importants, comme par exemple le sujet du caractère de Dieu. Quel est le vrai caractère de Dieu? Si vous en référez à d'autres types de littérature religieuse, le Coran, par exemple, parle d'un Dieu puissant, mais qui n'est pas nécessairement un Dieu d'amour et surtout qui est un Dieu imprévisible. On ne sait jamais avec lui si on est en bon terme ou en mauvais terme. Et c'est un peu l'expression « Inch'Allah », ça dépend de lui, on ne peut pas savoir. Hein? On ne sait pas. Par contre, la Bible nous donne des indications du caractère de Dieu. Exode 34, 6. L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. » Nombre 14, 18 répète cette même description. « L'Éternel est lent à la colère, il est riche en bienveillance, il pardonne la faute et le crime, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » On sait que l'histoire du peuple des dieux, c'est l'histoire de rébellion de son peuple vis-à-vis de ce Dieu qui veut les bénir. Dans Néhémie 9, 17, si vous les notez sans vous y tourner, « Ils refusèrent d'obéir et ne se souvèrent pas des merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur nuque et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, qui est compatissant et qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance, et tu ne les as pas abandonnés. » Et on pourrait multiplier comme ça les passages qui nous montrent le caractère de Dieu. Et il faut savoir que c'est Dieu lui-même qui inspire ces paroles parce qu'il veut que nous le connaissions. Il veut que nous sachions qu'on peut s'approcher de lui dans toutes nos situations et qu'il est prêt à nous aider. Mais encore une fois, dans toute cette variété, dans toutes ces différences, ces sources de non-unité, de désordre, on voit une harmonie incroyable autour d'un thème central, celui de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Il y a une façon de lire la Bible qui est très importante, c'est de chercher Christ dans le passage que vous lisez, dans le livre que vous lisez. Des fois c'est évident, des fois c'est moins facile. Dans la Genèse, il est le Dieu créateur. Commencement, Elohim, c'est un pluriel. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus est déjà créateur. Dans le Lévitique, il est notre sanctification. Tu seras saint car ton Dieu est saint. Dans 2 Samuel, il est le fils de David, ça on l'a étudié. Dans Job, il est l'arbitre, celui qui comprend vos batailles, mais qui peut faire quelque chose au sujet de vos difficultés. Dans les psaumes, il est votre chant et votre raison de chanter. Et ça, c'est dans Ésaïe, il est le conseiller puissant, le prince de paix, le Père éternel. Et dans tous les livres, on peut trouver une description qui correspond à Jésus. Là aussi, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer une liste des caractéristiques ou de la description de Jésus dans chacun des livres de la Bible. Dans les évangiles, dans Matthieu, il est le roi des Juifs. Dans Marc, il est le serviteur. Dans Luc, il est le fils de l'homme qui vient servir, qui vous lave les pieds. Dans Jean, il est le fils de Dieu. Et ainsi de suite. Finalement, dans la Révélation, il est le roi qui va retourner. Il est le roi qui retourne. Vous vous souvenez, sur la route d'Emmaüs, après sa résurrection, les disciples pensaient qu'il était mort, c'était la fin. Il rencontre deux disciples qui ne le reconnaissent pas tout de suite. Et il est dit qu'en fait, il expliqua aux deux disciples tout ce qui le dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Ça a dû être une étude biblique fantastique. Jésus, le temps qu'il marchait avec ses deux disciples qu'il n'avait toujours pas reconnus, leur expliquait que chaque livre, chaque passage parlait de Jésus. Vous connaissez peut-être l'expression, le concept d'une concordance, biblique. C'est une sorte de dictionnaire qui prend tous les mots qui sont utilisés dans la Bible, et à chaque liste de, pour chaque mot, il y a tous les passages où ce mot est utilisé. Donc si on voit justice, on peut voir tous les passages qui parlent de justice. Si on voit Jésus, on peut voir toutes les fois où Jésus est référencé. On peut remercier les personnes qui ont fait ça avant les ordinateurs, qui passaient 30 années de leur vie à apprendre la Bible, écrire le mot, un nouveau mot qu'ils n'avaient pas rencontré encore, et à chaque fois qu'ils rencontraient, ils allaient voir s'ils l'avaient déjà rencontré et ils marquaient le passage. Maintenant, on fait ça avec des ordinateurs, on n'a plus les grosses concordances, on utilise moins les grosses concordances en papier, les gros dictionnaires. Mais en russe, il y a un mot pour désigner ce genre d'ouvrage. Et le mot russe, c'est le mot symphonia, une symphonie. Et je trouve que c'est très beau parce que ça montre que c'est comme un morceau de musique. Je ne sais pas s'il y a des musiciens parmi vous, ou même sans jouer, mais qui connaissent un peu la musique. Dans la musique classique, il y a des thèmes qui reviennent, qui sont traités sur différents styles. Il peut être très lent, après ça prend du volume, il y a des... La Bible, c'est un peu ça. Jésus est là, partout, présent, et chaque passage le décrit d'une façon différente, qui découvre une de ses facettes. Cette harmonie, elle n'est pas là par hasard, elle vient du fait qu'il y a en fait un seul auteur, c'est l'Esprit-Saint de Dieu, qui a inspiré les auteurs humains qui ont écrit. Il est dit dans 2 Pierre 1,21, que ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est les hommes, sous la dictée pratiquement de Dieu, qui ont, en y mettant leur personnalité, leur style, mais le message vient de Dieu. La Bible est unique dans son harmonie, elle est unique dans sa diffusion. C'est le premier livre qui a été imprimé sur la presse de Gutenberg, en 1592, je crois, au 16e siècle. Elle est le best-seller de tous les âges. En 1998, rien que dans une année, il y a eu 21 millions de Bibles vendues, distribuées. Ça fait une Bible pratiquement toutes les secondes et demie qui est distribuée. Je suis en rapport avec la Bible la librairie La Bible du boulevard Thiers. On a un dépôt-vente de chez eux. Chaque année, là, ce magasin vend un millier de Bibles, soit à peu près 4 par jour ouvrables. 400 Nouveaux Testaments, 3500 Évangiles, 10 000 traités. Et c'est juste un petit point de vente. Dans sa distribution, mais aussi dans sa traduction. C'est de loin le livre le plus traduit au monde. Vous avez peut-être déjà vu des copies de Tintin en corse, ou Tintin en breton, ou Astérix en portugais. La Bible a été traduite dans son intégralité en 383 langues déjà. C'est toutes les langues principales et beaucoup de dialectes. Elle n'a pas encore été traduite complètement en corse. Avis aux amateurs. Le Nouveau Testament a été traduit en plus de 800 langues. Et il y a eu au moins un livre de la Bible qui a été traduit dans 2261 langues. Là, on va chercher les langues parlées par des petites tribus dans des pays perdus. Mais il reste encore 3000 langues, dialectes, pour lesquelles des traducteurs travaillent. On a la joie et l'honneur de connaître un couple de proches amis qui font ce travail auprès des Amdo tibétains, au fin fond de la Chine. Ils sont là-bas depuis une quinzaine d'années et ils traduisent petit à petit la Bible en tibétain, une variété de tibétain. parler justement dans cette région. La Bible est unique dans sa durée. À travers le temps, elle a été assurée d'un processus de retransmission sans aucune comparaison possible, unique. Elle a été recopiée sur des supports. À l'époque, il y avait que des supports qui se dégradaient comme des peaux d'animaux, des supports faits à partir de plantes comme les papyrus. Et chaque année, mais très rapidement, ces supports devaient être recopiés parce qu'ils se dégradaient. Et il fallait la copier et la recopier. Ça, c'était avant l'invention de la presse. Et il y avait des gens dont c'était la principale occupation. Il y avait les Masorettes. C'était des copistes professionnels qui recopiaient une page sur une autre page. Et pour vérifier qu'ils ne faisaient pas d'erreur, ils avaient trouvé des systèmes tels que de compter le nombre de lettres. Voir s'ils comptaient le nombre de lettres sur la page de gauche, s'ils comptaient le nombre de lettres sur la page de droite, ils voyaient s'ils avaient le même nombre. S'ils en avaient une en plus ou en moins, ils recommençaient tout. Ou alors ils regardaient la lettre qui était au milieu de chaque phrase. Et ça, c'est des méthodes en fait qu'on a utilisées maintenant dans... Lorsque vous utilisez Internet, vous envoyez des emails, il y a des processus tout à fait identiques de reconnaissance. Il y a des octets qui ont une petite composante, un bit, de parité, pour savoir si le nombre total de symboles 0 ou 1 en informatique est pair ou impair. Et ça réduit de beaucoup les problèmes de transmission. S'il y a une petite erreur, automatiquement le système va rechercher le message et vous le fait revenir. C'est pour ça qu'on arrive à une grande fiabilité dans la transmission des données. Mais ça avait déjà été mis au point en concept, pas avec l'informatique, par les Masorettes. Et ce qui a été formidable, c'est que on avait les plus récents manuscrits qui étaient en notre possession. C'était des manuscrits pour l'Ancien Testament qui dataient de la période de 900 ans après Jésus-Christ. Parce que ces textes avaient été copiés, recopiés, jusqu'à ce qu'en 1953, un jeune bédouin qui gardait ses chèvres dans la région de Judée jette une pierre dans une cave, dans une caverne, et qu'il entende un bruit de peau qui se casse. Il est allé voir, et là il a retrouvé des documents qu'on a appelés les manuscrits de Qumran, c'est dans la région de Qumran, en Israël. Si vous allez faire un voyage là-bas, vous irez à Qumran. C'est très impressionnant de voir qu'en fait, dans ces grottes, il y avait des textes qui étaient conservés et qui dataient de 100 ans avant Jésus-Christ. Et parmi ces textes, il y avait notamment le livre d'Ésaïe dans son intégralité. Et on a pu comparer le texte d'Ésaïe qui datait de 100 ans avant Jésus-Christ avec la copie de la copie de la copie de la copie de la copie qui est arrivée en 900 après Jésus-Christ, et il n'y avait pratiquement pas de différence. Ça a été une découverte archéologique fantastique. Ça a inspiré beaucoup de films, de livres, de savoir. Maintenant, il y a même des livres qui veulent trouver qu'en fait la Bible c'est un coup monté, qui essayent de retrouver comme ça. Mais réellement, l'archéologie véritable a montré qu'on pouvait se fier à la transmission biblique, et ces manuscrits de la mère Maude vont bientôt être disponibles en ligne sur Internet. Vous pourrez aller voir les textes et voir, comparer avec les textes. Si vous faites de l'hébreu ou vous ne faites pas d'hébreu, vous pourrez voir. Une autre caractéristique, c'est le nombre de copies. Il y a des textes qu'on ne met pas en doute, comme l'Iliade ou l'Odyssée d'Homère. On sait que ça a été écrit en 900 avant Jésus-Christ. Et combien est-ce qu'il reste de copies, de fragments de copies? Il en reste à peu près 643, pour être précis, d'après mes sources. César a écrit 100 ans avant Jésus-Christ, la guerre des Gaules, quelques années avant Jésus-Christ. Nombre de copies restantes, 10. Une chose très importante, c'est aussi l'intervalle de temps entre les événements décrits et le texte, le moment où le texte a été écrit. Pour Homère, on parle de les événements décrits, il y a plus de 900 ans, plutôt plus de 500 ans entre le moment où ces événements décrits par Homère ont été décrits et le moment où le texte a été écrit. Pour César, il y a 1000 ans entre le moment... Il y a une centaine d'années pour César. Pour le Nouveau Testament, ça a été écrit entre l'an 40 et l'an 100. L'an numéro 100. Pas l'odeur de l'encens. Il n'y a qu'un intervalle de 25 années. Et il n'y a pas 10 ou 643 fragments disponibles, différents. Il y en a 23 000. Il n'y a aucune comparaison dans la fiabilité de la Bible. Alors c'est vrai, on n'a pas de texte, on n'a pas de manuscrits originaux, mais on a développé des sciences en regardant comment un texte est copié, et on a vu qu'en fait, à partir de plusieurs copies, en utilisant des principes simples, on peut décrire l'original avec une grande fiabilité. Et des erreurs que l'on fait en recopiant, c'est par exemple de voir un mot, on quitte la page et on revient, et au lieu de prendre le mot où on était, on va plus bas dans le texte et on reprend le même mot, on a sauté un passage. Donc un texte en général qui est plus court qu'un autre, c'est parce qu'il n'est pas complet. Les gens, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils ont tendance à simplifier. Donc on privilégie, un texte est plus fiable s'il y a des passages un peu compliqués. Si ça a été simplifié, c'est que c'est plus douteux. Et il y a toute une science qui s'est développée, et avec cette science, on peut pratiquement remonter à l'original et se dire que voilà ce que disait l'original. La Bible a résisté dans sa durée aux persécutions. L'empereur romain Dioclétien voulait éliminer les saintes écritures. 25 ans plus tard, c'est Constantin, l'empereur romain, en 312, qui s'est converti au christianisme et qui a fait publier aux frais de l'État romain, de l'Empire romain, 50 copies de luxe. Voltaire avait déclaré que dans 100 ans après sa mort, il n'y aurait plus une seule de ses Bibles. 50 ans après sa mort, la société biblique a racheté la maison de Voltaire à la Ferney-Voltaire et s'en sert jusqu'à aujourd'hui de base de stockage d'impression de la Bible. J'ai eu l'occasion d'aller au château de Saint-Alban près de Mâcon, qui est la maison familiale de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, le philosophe existentialiste qui a nié l'existence de Dieu très fortement, très, très violemment. C'est maintenant un endroit qui est utilisé pour des réunions chrétiennes et qui est même le siège des éditions évangéliques Farel. Dieu a le sens de l'humour. La Bible a résisté aux critiques dans sa durée. On a dit que l'écriture, c'était pas possible que Moïse ait écrit la Bible parce que l'écriture n'existait pas au temps de Moïse. On a trouvé que le code d'Hammurabi avait été écrit en écriture cunéiforme bien avant Moïse. La Bible, non seulement est unique dans sa préservation, mais elle est aussi unique dans son enseignement. Dieu, la Bible nous dit qu'il habite dans l'éternité. L'éternité, nous qui avons été à l'école républicaine et laïque, même les autres, on a tout de suite en vue l'abscisse du temps. De moins l'infini à plus l'infini. Ça, c'est le temps. Et on se dit l'éternité, c'est quand on part d'un bout de la pièce et qu'on ne s'arrête jamais, et que la ligne, c'est un concept, mais c'est faux. L'éternité, c'est pas représenté par une ligne de moins l'infini à plus l'infini dans le temps. L'éternité, c'est une autre dimension que le temps. L'éternité, c'est en dehors du temps. Dieu habite dans l'éternité. On y reviendra, je pense. Et il veut authentifier son message. Il veut que quand nous recevions la Bible, Nous sachions qu'elle vient de lui. Dieu, parce que justement il vit dans l'éternité, en dehors du temps, il s'est dit, j'ai une idée. Je ne sais pas comment ça lui est venu, je crois qu'il n'a pas, mais ça ne vient pas, il sait, il connaît tout. Mais il a dit, je vais authentifier mon message par les prophéties. Dieu qui sait le passé, le présent, le futur, nous, nous voyons le temps comme quelque chose de linéaire. J'aime bien utiliser l'exemple de quelqu'un qui regarde le Tour de France. Le coureur qui est en face de lui, si vous êtes sur le bord de la route, le peloton va arriver, il y a un coureur qui arrive, c'est le présent. Vous voyez ce coureur qui est là. Le passé, c'est le coureur qui est passé en tête il y a 5 minutes. Il est déjà passé, donc il est passé. Le futur, c'est le reste du peloton qui va arriver. Vous voyez, le passé, présent, futur. Mais pour les journalistes qui sont dans l'hélicoptère de France 3, de France 2, ils voient toute la course. Ils sont en dehors du paysage, du plan, de la géographie terrestre. Ils sont au-dessus, ils sont dans une autre dimension, ils voient tout en même temps. Je crois que vraiment c'est une analogie à la dimension supérieure de l'éternité dans laquelle Dieu voit tout ce qui se passe, présent, passé, futur. Et donc, parce qu'il a cette capacité à connaître le présent, il a dit, je vais leur dire dans le texte des choses futures, et quand ils vont les voir se passer, ils vont savoir que ça vient de moi. Et ça, c'est la merveille des prophéties bibliques, que l'on trouve dans aucune autre littérature religieuse, quelle qu'elle soit. Il y a près de 300 prophéties qui concernent Jésus-Christ dans la Bible. Il y en a près d'un millier en général, mais quelques prophéties sur Jésus. Il allait naître à Bethléem, dans la tribu de Juda, ça c'était Michée 5:2, et Matthieu 2:1 nous dit, oui, il est bien né à Bethléem. Il a été trahi par un ami, ça c'était prédit dans le psaume 41:10, on voit ça dans Matthieu 26:47. Il a été trahi pour 30 pièces d'argent, c'était une prophétie du prophète Zacharie. Matthieu 26:15 nous dit que c'est ainsi que ça s'est passé. Il a été mis dans le tombeau d'un riche. Ça, c'était dans Ésaïe 53:9. L'accomplissement est décrit dans Matthieu 27:57. Il est né d'une vierge. Ça, c'était prophétisé par Ésaïe 7:14. Matthieu 1:18 nous explique qu'il est né d'une vierge. La date de son entrée triomphale à Jérusalem est prédite dans Daniel 9:24. Dans Marc 11:1, on sait quand il est arrivé sur un âne dans Jérusalem et que les gens mettaient des rameaux, l'abritaient avec des rameaux. Sa crucifixion a été prédite, prophétisée dans le psaume 22:16 et bien sûr dans les évangiles, dans Marc 15:24. Là aussi, si vous voulez, donnez-moi votre email et je vous ferai parvenir ces détails qui sont bons de connaître. Toutes ces prophéties, on peut dire, bon ben, après tout, ça peut être un peu par hasard et que quelqu'un naisse à Bethléem. Hein, il y a des gens à Bethléem, c'est aussi une ville qu'on peut visiter. Mais il y a un mathématicien, Peter Stoner, qui a fait une analyse statistique de ces prophéties. Il a dit, on va prendre juste 8 prophéties, comme par exemple le lieu de naissance, la date de naissance, le fait que sa maman devait être vierge, qu'il a été trahi, qu'on lui a fait subir un supplice, que ses vêtements ont été partagés, qu'il a été percé, qu'on l'a enterré. Et il a fait un calcul en se disant, bon, bah, qu'une personne de cette époque soit née à Bethléem, c'était une petite ville de peut-être de 2000 habitants, la population à l'époque dans cette région du monde, c'était 200 000 habitants, donc la probabilité pour qu'on un échantillon, que 200 000, qu'il y ait quelqu'un dans 200 000 personnes qui naissent dans une ville de 2000 personnes, ça va être peut-être 1 sur 100. Je ne fais pas le calcul. Mais voyez, l'idée, c'est de dire, voilà, cette probabilité, disons que c'est 1 sur 100. Après, pour qu'il ait aussi, qu'il était précédé on va reprendre les. Qu'il soit né d'une maman vierge, ça c'est pas commun, ça c'est beaucoup plus. Moins fréquent, moins probable. On va dire que c'est 1 sur 200. Encore, on va. Je crois qu'il y en a qui mettraient 1 sur 10 000, hein, ou plus. Bon. Et ainsi de suite. Mais lorsque, parmi les quelques personnes qui auraient pu être nées. Si vous prenez une personne au hasard, la chance qu'elle soit née à Bethléem, c'est déjà petit. Les chances qu'elle soit née à Bethléem et qu'elle ait été trahie par un ami, c'est encore plus petit. Qu'il soit né d'une vierge, c'est encore plus petit. Bref, c'est ce qu'on appelle les probabilités composées. Plus on ajoute de conditions et plus le nombre de personnes qui vont avoir trouvé les bonnes conditions, qui vont dire je peux être le Messie, je remplis toutes ces conditions, plus le nombre diminue. Et pour 8 prophéties seulement, il a trouvé que la probabilité qu'une personne prise au hasard soit remplisse ces conditions, que ces prophéties se réalisent en elle, c'était une chance sur 10 à la puissance 17. C'est-à-dire 1 sur 10 suivi de 17 zéros. Ça ne nous parle pas tellement, 17 suivi de 17 zéros, 10 suivi de 17 zéros. Mais pour donner une meilleure idée, si vous imaginez que vous remplissez le territoire français de pièces de 2 euros sur une profondeur de 50 cm. Vous allez de Brest à Nice, de Biarritz à Strasbourg, vous couvrez et vous surveillez que personne ne vous prenne l'argent. Non, je plaisante. Il y a à peu près, la quantité de pièces qu'il faudrait, c'est à peu près 10 à la puissance 17. Ça veut dire qu'en fait, la probabilité qu'une personne prise au hasard soit le Christ, remplisse les 8 premières probabilités, prophéties que Christ a remplies, c'est comme si vous débarquiez, on vous débarque en hélicoptère sur la France couverte de pièces de 2 euros. On vous pose, vous sortez, on vous bande les yeux, et parmi toutes ces pièces, il y en a une sur laquelle quelqu'un a fait une croix rouge en marqueur. Et les chances que vous tombiez sur la pièce rouge au marqueur de Brest à Nice, de Strasbourg à Biarritz, sur une hauteur de 50 cm de pièce de 2 euros, c'est 1 sur 10 à la puissance 10, 17. Moi, ça me donne la chair de poule, rien d'y penser. Mais ce qui est encore plus fantastique, c'est qu'il n'en a pas rempli 8 des prophéties. Il en a rempli des centaines. La même personne avait fait le calcul pour 17 prophéties remplies. Il arrivait à 10 à la puissance 32. Pour plus de 300 prophéties qui ont été réalisées, ça montre tout simplement qu'il est impossible que Jésus-Christ soit une personne par hasard. Dieu a authentifié son message par les prophéties. La Bible est bien le message de Dieu qui gouverne l'univers. La Bible est unique dans son exactitude historique. On a retrouvé des personnages dont on doutait, comme Ponce Pilate, David, Lysanias, Quirinus. Dans son exactitude scientifique aussi. Ce n'est pas un livre de science, mais dans tout ce qu'elle dit concernant la science, elle est exacte. Ésaïe 40, 22 disait que la Terre était un cercle. Un cercle ou une sphère, pas plate comme les gens du Moyen-Âge l'ont cru. Bien avant Ésaïe. Corinthiens 15, 41 parle de différentes magnitudes d'étoiles, différents éclats d'étoiles, alors qu'à l'époque on considérait qu'elles étaient toutes pareilles. Dans Ecclésiaste 1, 6, on parle des vents circulaires. À l'époque, on pensait que le vent, ça soufflait toujours tout droit, parce qu'on n'avait pas le recul pour voir qu'en fait, il y avait des anticyclones, comme on voit le soir à la télé, sur la météo, on voit des cercles de vent qui s'organisent. Ça, les vents circulaires, l'Ecclésiaste en parlait. Le Lévitique 17, la vie de la chair est dans le sang. Ça, c'était une découverte scientifique bien plus tardive, de voir qu'en fait, il y avait un rapport qu'on saignait les gens, puis on s'étonnait qu'ils mouraient encore sous Louis XIV. On ôtait le sang parce qu'on pensait qu'il y avait des humeurs qui n'étaient pas bonnes pour leur santé. Les pauvres, ils mouraient, ils se vidaient du sang. La Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. On pourrait... Juste, je voudrais... Ce qui est formidable, c'est que l'Ancien Testament, c'est le nouveau qui est caché dans l'Ancien Testament. Quelqu'un a dit, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est révélé dans l'Ancien Testament, pardon, est révélé dans le Nouveau Testament. Il y a une imbrication fantastique. Nouveau Testament, je répète, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. Il y a ce qu'on appelle le proto-évangile, le premier évangile de la Genèse 3.15. On peut regarder ça, on va... Encore deux petits exemples et je vous lâche. Dès le jardin d'Éden, on va en parler davantage la semaine prochaine. L'homme et la femme avaient péché en désobéissant à Dieu, et le salaire du péché, c'est la mort, dira plus tard Paul. Mais là, verset 15 du chapitre 3, page 3 du début de la Bible, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Ça, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'annonce de l'Évangile. La descendance de la femme, c'est la famille par laquelle Jésus est arrivé, l'homme parfait. La descendance du diable, du serpent qui est le diable, c'est la famille des enfants du diable. Le diable a écrasé le talon de Jésus lorsqu'il a fait mourir Jésus sur la croix. Il a cru qu'il avait remporté la victoire. Mais Jésus lui a écrasé la tête en ressuscitant. Ça a été une défaite complète de Satan, signée par la résurrection de Christ. Au passage, une chose intéressante, le mot descendance, c'est le mot zera, en hébreu ça veut dire la semence ou le sperme. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une erreur scientifique? La femme n'a pas de semence, mais bien sûr pas de sperme, mais des ovules. Parce qu'en fait, on y reviendra, le péché a entaché l'homme par la paternité. Mais contrairement à la biologie, on verra en revenant à ce passage que Jésus a pu naître sans péché car il a été conçu par le Saint-Esprit et par Marie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des fois le proto-évangile. Proto, c'est premier ou très vieux. Prototype, c'est une première construction. Et un petit passage, la Genèse 5. Des fois, on se plaint des généalogies. On sait Barban, c'est... Oh là là. Un tel engendra machin, qui engendra machin. Et des noms imprononçables. Mais il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'écouter la personne qui a fait cette découverte. En regardant le sens des noms bibliques des descendants en hébreu. D'Adam, c'est la descendance d'Adam à Noé. Verset 1, il est question d'Adam. Verset 3, il est question de Seth. Verset 6, d'Enoch. Verset 9, de Kénan. Ça, c'est la suite des descendants. Verset 12, il est question de Mahalaleel, un nom difficile à prononcer. Verset 15, il est question de Yéred. Verset 18, de Enoch. Verset 21, on le connaît celui-là, Mathusalem, vieux comme Mathusalem. Verset 25, les mecs, pas les filles, les mecs. Et puis verset 29, Noé. On connaît lui, on le connaît aussi avec son arche, hein, on l'a bien connu. Voilà, et on se dit, bon, c'est intéressant tout ça, il y a l'âge, il y a les... Et puis cette personne a dit, on va rechercher un peu le sens biblique de ces noms, le sens de ces noms en hébreu. Alors Adam, vous savez peut-être, ça veut dire l'homme. Seth, ça veut dire réservé ou réserve. Enoch, ça veut dire mortel. Kénan, ça veut dire tristesse ou chagrin. Mala, Mahalaleel, on reconnaît la terminaison EL qui veut dire Dieu. Mahalaleel, ça veut dire le Dieu béni. Yéred, ça veut dire qui vient d'en haut, viendra d'en haut. Enoch, il y a des profs parmi nous peut-être. Enoch, c'est l'enseignant. La prochaine fois que vous voulez votre prof, salut Enoch. Mathusalem, ça voulait dire sa mort amènera. On y reviendra aussi. Les mecs, ceux qui désespèrent. Noé, ça veut dire repos ou consolation, encouragement, repos. Et quand on lit la suite des noms, on lit un message. À l'homme est réservé un chagrin mortel, mais le Dieu béni viendra d'en haut, enseignant que sa mort amènera à ceux qui désespèrent repos et consolation. Ouh ! Dès la Genèse, Dieu savait ce qu'il allait faire. Et la Bible est un domaine, c'est la révélation divine, c'est pas juste un livre qu'on étudie, qu'on utilise comme un prétexte pour trouver des jolies phrases, pour se réconforter. C'est le message de Dieu. Récemment, c'est revenu à la mode, on a parlé des séquences équidistantes de l'être. C'est-à-dire que dans le texte hébreu, déjà au XIVe siècle, il y avait un premier rabbin qui avait remarqué que si on partait d'une lettre et qu'on comptait sept lettres et qu'on allait voir la lettre plus loin, et ainsi de suite, à sept lettres de distance, on pouvait trouver des mots comme Torah. Torah, c'est le Pentateuque, c'est les cinq premiers livres de la Bible. Et puis plus tard, il y a eu à l'époque de la Première Guerre mondiale, Michael Westman, un hébreu, un rabbin aussi, qui a fait une recherche manuelle systématique plus profonde. Et là aussi, en utilisant le texte masorétique, le même texte qu'on a retrouvé à Qumran et qu'on avait transmis, il a trouvé des tas de messages en regardant dans le texte des séquences de lettres, toutes les 7 lettres, toutes les 77 lettres, etc. Et des messages très intéressants. Récemment, ça a été remis à la mode, on parle maintenant des codes sacrés de la Bible. Avec des ordinateurs, il y a eu des textes comme ça qui ont été recherchés. Il y a eu des livres publiés qui montrent en fait qu'il y a une ingéniosité dans la fabrication du texte. Je ne sais pas si vous avez jamais essayé de faire des mots croisés. Pas de trouver la solution, je dis de créer des mots croisés. Ce n'est pas évident. Mais de faire qu'un texte qui veut dire quelque chose, en même temps, dans ce texte, il y a d'autres messages qui se répètent, les ordinateurs n'existaient pas. Même avec les ordinateurs, on n'arrive pas à faire des choses pareilles. Encore une fois, Dieu met sa signature dans la Bible. Il veut nous attirer notre attention. Alors, encore une fois, il y a eu un côté sensationnel avec ces séquences de lettres équidistantes, les codes, on a vu le nom de... Je suis sûr qu'on peut trouver la banque Goldman Sachs et compagnie. On peut faire dire au texte beaucoup de choses. C'est pas ce qui fonde ma foi, mais je crois en même temps que ça indique toute la richesse biblique. Et qu'en fait, la Bible, on peut y consacrer sa vie sans jamais arriver à tout comprendre. Dieu a révélé certaines choses. Deutéronome 29:29, on va terminer. Il nous a dit qu'il y a des choses qui sont révélées pour que l'homme les connaisse. Il y a des choses qui sont cachées parce que Dieu a décidé de le faire. Mais rien que les choses qu'il a révélées, c'est une poursuite fantastique pour tout le reste de votre vie. Et je veux vraiment que cette étude vous donne le goût, la chair de poule quand vous voyez ces coïncidences, entre guillemets, que vous voyez qu'en fait, il y a un message d'amour que Dieu a authentifié en utilisant des méthodes qu'il a fallu des milliers d'années avec les ordinateurs pour reconnaître, pour essayer de comprendre. Et les prophéties, il n'y a que lui qui peut faire ça. Il y a plein de passages dans la Bible où Dieu dit à Job ou par Ésaïe, allez, annonce des choses et on va voir si elles arrivent. On voit les cartomanciennes, les horoscopes. C'est assez vague pour que les gens soient impressionnés. Ils disent, oui, mais encore une fois, je veux que vous ayez, avant qu'on s'emballe dans cette étude, que vous voyez que c'est un message de Dieu authentifié. Amen.